Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Mesdames et messieurs, plusieurs raisons m'ont amené à traiter cette année de l'époque où Rome étend sa domination sur le monde hellénistique, à partir de l'extrême fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et pour commencer par la raison la plus immédiate, voire la plus triviale, avant de m'élever éventuellement à des considérations plus profondes, c'est une façon de prolonger, de conclure le cours de l'année dernière sur la cité d'Érétrie en Eubée. En effet, en discutant des sources relatives à l'histoire de cette cité, des questions très variées qu'elle soulève, à partir d'une documentation à la fois abondante et très lacunaire, nous n'avions guère pu dépasser la limite de la haute époque hellénistique, par quoi on désigne, vous le savez, la fin du IVe siècle et tout le IIIe siècle avant notre ère, jusqu'à la mainmise précisément des Romains sur les affaires du monde grec, avec ce tournant qu'a été la bataille de Pydna en 167, qui voit l'élimination du royaume de Macédoine. Or, c'est précisément dans les premières années de l'intervention romaine en Grèce que se produit pour les cités de l'Eubée, en particulier, un changement politique important avec la création d'un ensemble, d'un koinon euboéon, d'une confédération qui ne ressemble que d'assez loin aux tentatives faites antérieurement, s'en souvient peut-être, pour unir les quatre cités de la tétrapole eubéenne dans une fédération qui serait digne de ce nom. Il pourra donc être intéressant de voir ce qu'il est advenu des cités de l'Eubée, celles d'Érétrie en particulier, dans ce processus de type fédératif, relativement nouveau, dans une île qui, par son morcellement géographique, sa diversité ethnique, se prêtait assez malaisément à l'union, politique. C'est du reste un exemple qui a été le plus souvent négligé par les historiens du fédéralisme grec, à la fois parce que ce koinon n'entre pas bien dans le classement schématique auquel certains pensent pouvoir ramener l'ensemble des confédérations, et parce que les sources, il faut le dire, restent peu nombreuses, malgré quelques enrichissements récents. Mais bien entendu, au-delà de ce cas particulier, un peu atypique, auquel sera consacrée la première leçon, ou celle de la semaine prochaine, il faudra étendre l'étude aux confédérations hellénistiques qui atteignirent leur apogée dans le courant du IIIe siècle ou vers la fin du IIIe, et qui sont ces États qui ont été confrontés à la montée en puissance de l'impérialisme romain. On doit prendre conscience, en effet, que la Grèce que découvrent les Romains à cette époque est un pays fait de cités, de poleis sans doute, mais de cités fédérées pour la plupart en de plus ou moins vastes communautés politiques. Rien ne le montre mieux que certaines inscriptions, fort simples, comme des catalogues de mercenaires. Celui que vous avez sous les yeux, un catalogue de l'île de Samos, datant justement des alentours de 250 avant Jésus-Christ, qui avait été publié par le grand épigraphiste Louis Robert dès avant la Seconde Guerre mondiale, mais qui est resté relativement peu connu, peu exploité. Or, on y voit de la manière la plus claire que la plupart de ces mercenaires portent un ethnique fédéral, on peut dire, un Aitolos, un Akarnan, Akaios, Boiotios, même Malios, Focus. Il y a très peu d'ethniques qu'on pourrait dire municipaux, venant d'une ville, et qui attirent évidemment l'attention. J'y reviendrai à propos d'un de ces ethniques dans la seconde leçon. Ce sera aussi l'occasion de revenir à propos de Boiotios, par exemple, dans les troisième et quatrième leçons sur le cas béotien, dont l'importance dans l'histoire du fédéralisme antique ne saurait être méconnue, question à laquelle nous avions certes touché, mais un peu comme en passant, quand nous avons marché trois années durant, certains ici s'en souviennent, sur les pas de Pausanias, le périégète, dans sa tournée des villes et des sanctuaires de la Béotie antique. Si l'exemple du koinon boioton est si intéressant dans la perspective du cours de cette année-ci, c'est qu'il est l'illustration même des vicissitudes subies par certains États fédéraux dans leur relation avec Rome. Puisque ce koinon, on le sait peut-être, fut le premier à être brutalement dissous par le Sénat romain, cela dès l'année 171, donc même avant la bataille capitale de Pydna en Macédoine, avant même la fin de la guerre de Macédoine. Ce roi de Macédoine auquel les Béotiens, précisément, avaient eu la grande imprudence de s'allier. On verra d'autre part que la reconstitution de cette fédération, de ce koinon, dont la Béotie, très éprouvée par trois guerres meurtrières en moins d'un siècle, dut attendre longtemps, très longtemps, en vérité, et bien plus qu'on ne l'a cru jusqu'ici, sur la base d'un texte de Pausanias, précisément, qui est très problématique. Mais si important, si dramatique aussi que soit l'exemple béotien, il ne saurait évidemment être traité en vase clos. Il conviendra d'étendre nos investigations à d'autres confédérations. À d'autres confédérations, pardon. Non pas à toutes, cependant, mais du moins à la plupart de celles qui subsistaient au moment de la conquête et eurent dès lors maille à partir avec la puissance romaine. Bien des États grecs de type fédératif avaient cessé d'exister dès avant l'époque hellénistique. Ainsi, autour de la cité d'Olynthe, un koinon relativement important, ici dans la Chalcidique, ces Chalcidiens de Thrace, dont l'État avait été anéanti par le roi Philippe de Macédoine en 348, déjà avant Jésus-Christ. État sur lequel on est aujourd'hui un peu mieux informé par une série d'inscriptions et qui constituait une sumpolitéia, on verra ce mot, une constitution commune qui peut éclairer d'autres parallèles. Une autre confédération prématurément disparue, c'est celle des cités de l'Arcadie. Alors, tout à fait au cœur du Péloponnèse, on a parlé de la Suisse de la Grèce, cet État fédéral qui n'est saisissable qu'au milieu du IVe siècle, mais qui fournit, par le biais d'une inscription très remarquable, que je ne discute pas maintenant, un exemple ancien, absolument indiscutable, de la règle de proportionnalité en usage dans bien des États fédéraux. Or, cette question de la proportionnalité sera un peu comme le fil rouge dans la trame de nos leçons. Nous laisserons largement de côté aussi le cas de la Thessalie, grande plaine thessalienne au nord de la Grèce, ce koinon Thessalon qui subit une très longue éclipse pendant tout le IIIe siècle, à l'époque macédonienne, mais qui fut appelé à renaître, justement, après la victoire des Romains sur le roi Philippe V. Donc c'est une illustration, ou ce serait une illustration du rôle très positif que Rome a pu jouer, dans certains cas, dans le renouveau des Koina. Donc, faute de pouvoir réserver à cet état considérable l'exposé systématique rendu aujourd'hui possible par les travaux novateurs de plusieurs épigraphistes français, au premier rang desquels se trouve Bruno Elli, que j'avais invité ici il y a quelques temps, de ses collaborateurs de Lyon, ce koinon est relativement bien connu aujourd'hui. Nous n'y toucherons que par le biais d'une fédération plus modeste de la péninsule de Magnésie, ici, autour de Démétrias, car cette fédération n'est pas sans parallèle à l'époque romaine avec celle de Leubé. Il nous faudra en revanche faire la place qu'elle mérite à la confédération achéenne, confédération péloponnésienne, en tout cas centre et nord du Péloponnèse, qui a été si chère au cœur de l'historien Polybe au IIe siècle avant notre ère, achéen lui-même, car le destin de ce grand État est intimement lié à celui de Rome dans la conquête de l'Orient méditerranéen. On pourrait en dire autant, certes, de la confédération étolienne au nord du canal du golfe de Corinthe, dont il sera d'ailleurs question tout à l'heure dans le séminaire. Mais nous n'en traiterons pas de manière systématique. Non, que ce koinon aitolon soit moins intéressant, bien entendu, ni même beaucoup moins bien documenté que le koinon achaïon, même si Polybe en parle moins souvent, et surtout de façon très négative, très critique, mais parce que l'État étolien, d'abord allié, puis ennemi implacable de Rome, a été rapidement mis hors de jeu, on peut le dire, par la puissance conquérante dès 189, tout en conservant, il est vrai, au IIe siècle, une importance régionale. Mais il est appelé à disparaître rapidement, sa décadence est irrémédiable, et il ne fournit donc pas un bon exemple de ce qu'est un koinon sous la domination de Rome. Il en va différemment des koinons existants en Asie mineure. En Asie mineure, dès avant l'arrivée des Romains, aussi ai-je jugé indispensable de prendre en considération ces amphictyonies, on peut le dire, j'emploie ce mot ici qu'il faudra peut-être encore définir, d'associations de caractère plutôt religieux en Asie mineure, quoiqu'elles ne constituent à l'évidence pas des États semblables à ceux que l'on connaît dans la Vetus Graecia. Il vaut la peine en effet de s'interroger sur leur attitude à ces koina micrasiatiques face aux Romains et sur le sort qui leur a été réservé par ces derniers dans le processus de provincialisation et de romanisation de cette région du monde hellénique qui était si profondément hellénisée depuis si longtemps. C'est ainsi que nous examinerons successivement la vénérable confédération des cités de Lyonie, au cœur de la côte, au centre de la côte, ici, koinon ton ionon, qui offre un cas intéressant de survivance à l'époque romaine, de même que celle des cités de la Troade, autour du culte d'Athéna Ilias, ici, Troade est d'ailleurs Propontide, mère de Marmara, car ces deux koinas nous sont l'un et l'autre relativement bien connus par une série fournie d'inscriptions datant aussi bien de la période antérieure que de la période postérieure à l'arrivée des Romains. Donc nous pouvons là suivre véritablement le processus de soumission à Rome. Donc transformation dans le rôle, fonctionnement de ces associations. Enfin, tout nous invitait à traiter de la confédération des villes de Lycie, du Lykiakon Systema, comme disait Strabon, ici, la Lycie, je vous montre une carte plus détaillée de cette région à la fois côtière et aussi montagneuse, en raison du fait que ce koinon est apparu précisément à l'époque de la mainmise romaine sur l'Asie mineure. Ensuite, à cause de l'enrichissement très notable de nos connaissances grâce à l'apport depuis un demi-siècle et même depuis ces toutes dernières années, d'une récolte épigraphique véritablement exceptionnelle. Enfin, peut-être, et surtout, parce que la Confédération lycienne, d'importance à première vue secondaire, compte tenu de sa position en quelque sorte périphérique dans le monde grec, tant sur le plan géographique, là, sur cette côte sud de l'Asie mineure, que sur le plan ethnique et historique, l'apparition tardive, ce koinon, disais-je, a joué en réalité un rôle de premier plan dans l'histoire du fédéralisme, ou dans l'historiographie du fédéralisme, à partir du XVIIIe siècle, époque d'intenses réflexions sur la nature de l'État fédéral, et pas seulement de réflexions d'ailleurs, puisque, évidemment, c'est aussi l'époque de la réalisation d'un grand État fédéral, celui des États-Unis d'Amérique. On y reviendra. Or, ce problème du fédéralisme n'est-il pas à nouveau aujourd'hui d'une singulière actualité en Europe et même, oserais-je dire, dans un pays qui, par son histoire, se situe comme à l'opposé de la tradition fédéraliste, dans cette France où l'on a longtemps considéré les États fédéraux avec une certaine condescendance, avouons-le, en les tenant pour des constructions d'une douteuse efficacité, un peu acrobatique en tout cas, née de la nécessité de se défendre contre d'ambitieux puissants voisins, c'est le cas de la petite confédération helvétique, ou de s'affranchir d'une métropole encombrante, comme dans le cas des États-Unis précisément, ou encore, exemple plus récent fourni par la République fédérale allemande, de se reconstruire sur des bases nouvelles, toutes nouvelles et différentes, après une défaite aussi humiliante que catastrophique. Mais voilà qu'aujourd'hui, le fédéralisme revient en force, touchant même les nations où la République est en principe une et indivisible, où l'État central est omnipotent, la communauté européenne, dite depuis peu, et c'est révélateur, Union européenne, est là sous nos yeux, née elle aussi d'une certaine nécessité de reconstruction, de défense, d'affirmation de soi en face à d'autres fédérations de grande envergure. De sorte que plus personne aujourd'hui en Europe ne pourrait considérer le fédéralisme comme une question purement théorique, d'intérêt historique ou philosophique seulement. Et cela même si l'Union européenne, telle qu'elle apparaît du moins aux yeux d'un observateur en quelque sorte extérieur, puisque ressortissant d'un État assurément fédéral, mais qui n'en fait point partie, cette Union européenne, disais-je, est sans doute encore assez loin de pouvoir être qualifiée d'État fédéral stricto sensu, bien qu'elle en ait déjà incontestablement quelques caractéristiques majeures. Mais on va voir dans un instant que cette question de définition fait justement problème. Dans l'immédiat, et pour un cours sur le fédéralisme, avant et après la conquête romaine, on ne saurait trouver, je crois, meilleur point de départ que chez Montesquieu, car cet auteur était évidemment très pénétré de culture classique, tout en connaissant au mieux les formes de gouvernement des principales nations européennes d'alors, l'Amérique restant, et pour cause, un peu en dehors de son champ de réflexion, mis à part les aspects, si l'on veut, ethnographiques et économiques. En effet, dans le domaine des institutions politiques, nul n'a exercé une plus grande influence, en France comme à l'étranger, que l'auteur de « L'esprit des lois ». Ouvrage qui, je me permets de le rappeler, puisque le lieu d'édition, ni la date ne sont totalement indifférents. Ouvrage paru donc en 1748 et d'abord à Genève, dans une république dont Montesquieu cite avec éloge une belle loi relative au fils des citoyens insolvables, mise en parallèle avec une loi émanant de l'ancienne République de Rhodes, dans l'Antiquité, associant ainsi en même temps un exemple antique et un exemple moderne. Car pour lui et pour la plupart de ses contemporains, même quand il se range dans le camp des modernes, la fameuse querelle des anciens et des modernes, les anciens ne sont pas devenus encore les habitants d'une tribu exotique aux mœurs étranges et séparés de nous par le fossé de l'altérité, comme on dit aujourd'hui, une altérité à peu près, qu'on prétend, à peu près infranchissable. On peut encore leur demander conseil aux anciens, sans passer pour un érudit déconnecté de la réalité contemporaine. De fait, le plus naturellement du monde, quant au seuil de la seconde partie de l'ouvrage, dans le livre 9, qui traite des lois dans le rapport qu'elles ont avec la force défensive, Montesquieu en vient à parler de ce qu'il appelle la République fédérative. République fédérative. Il fait mention d'États antiques aussi bien que modernes, les mettant exactement sur le même plan pour illustrer ce qu'est ou devrait être une vraie République fédérative. C'est-à-dire, comme il le dit, cette forme de gouvernement qui est une convention par laquelle plusieurs corps politiques consentent à devenir citoyens d'un État plus grand qu'ils veulent former. Il y a l'idée de consentement, donc, l'idée de volonté, ce sont deux mots clés. D'ajouter presque aussitôt, ce sont ces associations qui firent fleurir si longtemps le corps de la Grèce. Mais l'histoire de Rome n'ignore pas non plus ces associations. Par elles, écrit-il encore, les Romains attaquèrent l'univers et par elles seules, l'univers se défendit contre eux. Autrement dit, ce mouvement associatif renaît perpétuellement sous le coup de la nécessité défensive. C'était là l'idée fondamentale. Et c'est par là, conclut-il, que la Hollande, l'Allemagne, les ligues suisses sont regardées en Europe comme des républiques éternelles. Non pas, certes, qu'elles soient parfaites, tant s'en faut, mais parce qu'elles correspondent à un besoin qui renaît sans cesse. Mais pour le lecteur, la première surprise vient de ce que l'exemple présenté par Montesquieu pour faire comprendre ce type d'État, né de l'union délibérée, consensuelle, ne sera pas l'une des trois ligues modernes qu'il vient de mentionner, qu'il avait sous les yeux et dont il parle pourtant avec éloge, puisqu'il les qualifie toutes trois de républiques éternelles. Bon, que l'Allemagne soit en quelque sorte recalée, éliminée du podium, n'a rien de bien étonnant. Car enfin, cette ligue, formée d'États de types très différents, placée sous la haute autorité de l'empereur, mérite à peine le nom de confédération. Notre auteur le dit un peu plus clairement, la République fédérative d'Allemagne, celle du XVIIIe siècle, s'entend, est composée de villes libres et de petits États soumis à des princes. L'expérience fait voir qu'elle est plus imparfaite que celle de Hollande et de Suisse. Reste donc en lice de confédérations moins imparfaites. Elles l'emportent assurément par le fait qu'elles sont constituées l'une et l'autre d'États républicains, non monarchiques, ce qui est un gage en principe de liberté et de paix. Mais que leur manque-t-il donc pour être parfaite ? Sur la Hollande, où il avait séjourné assez longtemps, avant de passer en Angleterre, Montesquieu a finalement peu de réserves à faire. Ce pays formé de 7 provinces, autonomes et très sages, en ce qu'une loi, dit-il, y interdit de nouer une alliance sans le consentement des autres. Chaque province pèse du même poids dans la gestion des affaires communes. Si les Hollandais, malgré tout, n'atteignent pas à la perfection, c'est que leur constitution ne fait, à la différence d'une autre, antique celle-là, il va mentionner, aucune place au principe de représentation proportionnelle. Quant aux ligues suisses, Montesquieu n'en dit pas grand-chose, en fait, dans l'esprit des lois, si ce n'est précisément qu'elles sont moins imparfaites. Dans l'opuscule intitulé « Mes pensées », il fait l'éloge de leur capacité peu commune à se défendre, à tel point, dit-il, que la Suisse est indomptable. Mais on sait par ailleurs qu'il faisait reproche aux Suisses de leur guerre intestine, fréquente au XVIIIe siècle, qui mettent en question le principe d'autonomie. Et il ne pouvait ignorer l'opposition qui était très vive alors entre catholiques et protestants, entre ville et campagne. Même sur le plan des institutions, la Confédération suisse n'était pas à cette date, si elle l'a jamais été, au-dessus de tout soupçon. On pouvait observer aisément que l'organe délibératif, la diète, comme dans le Saint-Empire, n'y avait pas grand pouvoir. Il n'y avait d'ailleurs pas de magistrats fédéraux. Et les États membres de la Confédération, qu'ils fussent campagnards ou urbains, étaient gouvernés de façon assez peu démocratique, tout le pouvoir se trouvant aux mains d'un nombre restreint de familles. Montesquieu devait savoir tout cela. Hein. Bref, on ne s'étonnera pas, en fin de compte, qu'il ait jugé plus prudent de fournir comme modèle de ce type d'État un exemple plutôt antique que contemporain. De fait, écrit-il, dans un texte que vous avez en main peut-être et ici sous les yeux, en une phrase assez fameuse, conclut-il son chapitre, s'il fallait donner un modèle d'une belle république fédérative, je prendrais la république de Lycie. À ce choix qui eût été totalement surprenant si Montesquieu ne l'avait en fait pas préparé par un exposé relativement détaillé des institutions fédérales lyciennes, un tableau que Montesquieu a tout entier emprunté, remanié, mais emprunté sans en faire mystère d'ailleurs à Strabon, le grand géographe de l'époque augustéenne, qui lui-même l'empruntait, et il le disait également, à un de ses prédécesseurs, Artémidore d'Éphèse, vers 100 avant Jésus-Christ. On peut comprendre, évidemment, qu'un philosophe des Lumières ait été séduit par cette constitution de la lointaine Lycie, au sud-ouest de l'Asie mineure. Savait-il exactement où elle se trouvait ? Sans doute. Et notamment par le principe très remarquable de proportionnalité qui y déterminait la représentation des États membres au sein des organismes ou des organes fédéraux. Les villes les plus, les plus importantes ayant droit à trois suffrages, Strabon le disait et Montesquieu le reprend tel quel. Les villes moyennes pouvant prétendre à deux suffrages et les petites à un suffrage seulement. On y reviendra évidemment là-dessus le moment venu. Mais la République fédérative lycienne en question était-elle vraiment un modèle d'État souverain comme l'était assurément de son temps, le temps de Montesquieu, les Provinces-Unies de Hollande ou les cantons suisses? Certainement pas. Car Strabon lui-même notait expressément que si les Lyciens pouvaient, je cite, antérieurement, protéron, délibérer de tout, y compris de la paix, de la guerre, des alliances, c'est donc ce passage du livre 14, kai peri polemou, kai eirenes, kai summaquians, il n'avait de son temps, du temps de Strabon, plus rien à dire, sauf exception, en matière de politique étrangère, qui était depuis plus d'un siècle, en fait, du ressort exclusif du Senatus Populusque Romanus, bien que la Lycie ne fût pas encore intégrée formellement à l'Empire romain. Mais Montesquieu croyait pouvoir faire abstraction, en fait, de cette forte réserve, d'autant plus aisément que, à en croire Strabon, les Lyciens avaient joui autrefois, protéron, justement, de la pleine souveraineté. Le problème, c'est que le koinon, ou comme le dit Strabon, systema, hein, cet ensemble constitué lycien, n'a pas eu d'existence réelle avant la conquête romaine. C'est un État né sous l'égide des Romains, comme on le verra dans une leçon à venir. Dès lors, il paraît bien légitime de se demander pourquoi le grand écrivain français a donné aux lycéens cette place d'honneur, ce statut de modèle. Et cela aux dépens d'États grecs qui pouvaient se prévaloir d'un apport au moins aussi important, certainement plus ancien, à l'élaboration d'institutions fédérales. L'absence, dans l'esprit des lois, de toute référence aux confédérations achéennes et étoliennes, les plus célèbres, sans conteste, de l'histoire hellénistique, a en effet de quoi surprendre. Montesquieu ignorerait-il qu'une place de premier plan était réservée à ces deux nations dans les histoires de Polybe? Voilà qui serait bien extraordinaire, parce que, de manière générale, on sait que Polybe, l'œuvre de Polybe, quoique fragmentaire, a été redécouverte en Italie dès le XIVe siècle. Elle a commencé à circuler à la Renaissance et était devenue une lecture de chevet pour les philosophes spécialistes de la politique au XVIIe et au XVIIIe siècle. En réalité, Montesquieu a fait grand usage de l'historien de Mégalépolis. Et l'importance de la Confédération achéenne, en particulier, ne lui a nullement échappé. On en a même une double preuve. Une double preuve. La première figure dans les célèbres considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, et c'est qui est antérieur à l'esprit des lois, publié à Amsterdam dès 1734, puis en 1648, dans une version passablement remaniée. Cet essai qui est justement regardé comme une préparation à la synthèse de l'esprit des lois. Le passage figurant au chapitre 5 des considérations sur les Romains mérite à tous égards d'être pris en compte. Montesquieu y montre comment Rome, une fois surmontée l'épreuve des guerres puniques à la fin du IIIe siècle, eut les mains libres pour s'attaquer à l'Orient grec, s'en prenant d'abord à la Macédoine et à la Grèce, avant, dit-il, de passer à la Syrie et à l'Égypte. Les quatre puissances qui occupaient la Grèce, le monde grec, à cette époque-là. Montesquieu reconnaît du reste que le mouvement fédératif en Grèce n'a jamais été poussé aussi loin. C'est bien que parler de la puissance de la Grèce comme puissance en tant que telle est un peu abusif. La Grèce aurait été invincible, dit-il en conclusion, si elle avait été unie. Mais précisément, elle ne le fut pas et elle ne fut jamais dans l'Antiquité. C'est ce qu'il laisse parfaitement voir dans cette première partie du développement que vous avez sous les yeux et dont j'aimerais donner lecture maintenant du passage essentiel. Il y avait dans la Grèce trois peuples considérables, à l'époque hellénistique, ce mot hellénistique qu'ils ne connaissaient pas encore, les Étoliens, les Achéens et les Béotiens. C'étaient des associations de villes libres qui avaient des assemblées générales et des magistrats communs. Les Étoliens étaient belliqueux, hardis, téméraires, avides de gains, toujours libres de leurs paroles et de leurs serments, donc prêts à trahir. Enfin, les faisant la guerre sur la terre comme les pirates la font sur la mer. On reconnaît là tous les traits du portrait peu flatteur que Polybe a fait de l'État étolien, véritable bête noire des notables achéens dont lui-même était issu. Le tableau que Montesquieu fait ensuite des Achéens est plus surprenant, car compte tenu de sa source achéenne, on aurait pu imaginer de sa part un jugement beaucoup plus positif à leur égard. Or, l'auteur des considérations, vous le voyez, se borne à dire ceci. Les Achéens étaient sans cesse fatigués par des voisins ou des défenseurs incommodes. Donc, en but aux attaques incessantes. Et de fait, à la fin du IIIe siècle, début du IIe siècle, il y a des guerres incessantes, l'Achaïe avec le roi de Sparte, du roi de Macédoine, puis aux côtés des Romains, une suite interminable de guerres qui occupe par exemple toute la biographie, toute la vie de Philopémène, le dernier des Grecs, selon la formule de Plutarque dans sa vie de Philopémène. Le rôle joué par les Achéens lors de la deuxième, troisième guerre de Macédoine, conquête romaine, ne fut certes pas médiocre, mais il est de fait que cette confédération n'a pas été contre Rome le rempart qu'on aurait pu attendre d'un État qui, à son apogée, comme le proclame Polybe avec une fierté légitime, réunissait pratiquement toutes les cités du Péloponnèse. Pire, les Achéens ont sombré lamentablement dans un trop tardif soulèvement contre Rome. Voilà, en fin de compte, pourquoi Montesquieu n'a pas cru devoir mettre cette confédération au nombre des belles républiques fédératives dont il devait faire l'éloge dans l'esprit des lois. Reste alors le troisième des peuples considérables de la Grèce à la veille de la conquête romaine, la nation béotienne. Est-ce elle qui va sauver l'honneur hellénique après les Étoliens, dépeints comme des vats en guerre, avides, sans scrupules, les Achéens, toujours fatigués, certes bien plus fréquentables, mais incapables d'avoir une ligne politique ferme, échouant finalement à sauver la Grèce de l'emprise romaine? On n'ose guère l'espérer, puisque Montesquieu présente d'emblée les Béotiens comme les plus épais de tous les Grecs. Confirmant, alors bien sûr, à la réputation qui leur fut faite dès l'Antiquité par les Athéniens en particulier. Mais le tableau qu'il fait ensuite de l'état de leurs affaires diffère considérablement entre les deux éditions des considérations sur la grandeur des Romains et de l'Athénien. Dans celle de 1748, dite définitive, la plus diffusée, celle qu'on lit d'ordinaire, Montesquieu montre la Béotie en assez pitoyable situation, car il résume en note le triste portrait que Polybe, au livre 20, faisait des Béotiens, censés être tombés dans une déliquescence proche de l'anarchie. En citant Polybe, Montesquieu dit « Les magistrats, pour plaire à la multitude, n'ouvraient plus les tribunaux, les mourants léguaient à leurs amis leurs biens pour être employés en festins » et de renvoyer explicitement donc, à l'extrait de Polybe. Et c'est encore l'historien achéen qu'il suivait de très près en relevant que, chose extraordinaire, leur république se maintenait dans l'anarchie même. Mais dans la première édition, celle de 1734, qui a été remise à l'honneur en l'an 2000, hein, et reproduite maintenant, diffusée dans le livre de poche qu'on peut trouver aisément en librairie, le jugement personnel de Montesquieu sur les Béotiens était tout autre. Certes, ils étaient déjà à ses yeux, parce que le qualificatif est en quelque sorte indélébile, les plus épais de tous les Grecs. C'est l'opinion commune et universelle. Il ajoutait cependant, mais les plus sages, vivant ordinairement en paix, uniquement conduits par le sentiment du bien et du mal, ils n'avaient pas assez d'esprit pour que des orateurs les agitassent et puissent les déguiser et leur déguiser leurs véritables intérêts. Il y a donc là une forme d'éloge, assez inattendue peut-être, qui repose sur la comparaison implicite avec Athènes, où le peuple le plus intelligent du monde se faisait régulièrement berner par des orateurs aussi talentueux que corrompus. Entre 1734 et 1748, Montesquieu a donc troqué le portrait d'un peuple vertueux et pacifique, trop rustique pour être perfide, contre celui d'une nation sombrant dans l'anarchie par la faute de ses magistrats, ne devant son salut pendant bien longtemps qu'à une chance parfaitement imméritée. Il avait donc adopté dans l'intervalle la vision de l'historien Polybe, très hostile aux Béotiens, ce qui, évidemment, excluait tout à fait que leur confédération fût choisie comme modèle d'une belle république fédérative. On comprend ainsi fort bien pourquoi, dans l'esprit des lois, l'écrivain n'a point jugé utile de revenir sur la confédération béotienne, pas plus que sur l'étolienne, dont il n'avait rien de positif à dire, dans la mesure même où il épousait les sentiments, disons plutôt les ressentiments, hein, du grand historien de la conquête romaine. Mais on aurait pu imaginer, en revanche, que dans le sillage de Polybe, précisément, Montesquieu exalta l'excellence de la constitution fédérale des Achéens, sans conteste la plus digne d'admiration selon leur illustre compatriote, au lieu que de le voir mettre au pinacle cette confédération lycienne, assez obscure, ce peuple dont Polybe ne dit à peu près rien, et, sinon pour les montrer les Lyciens soumis aux Rhodiens puis aux Romains, sans en tout cas parler de leur constitution. En fait, il me semble assez clair, au vu des papiers et des notes qui forment comme la préhistoire du grand ouvrage de Montesquieu, qu'on trouve aujourd'hui édité dans divers recueils, que Montesquieu eut à un certain moment le projet de faire aux Achéens, à la confédération de Polybe, une place considérable dans son chapitre sur les républiques fédératives. Forme de gouvernement à laquelle il voulait consacrer un véritable livre. Et de fait, on le voit consigner là à diverses reprises des remarques qui mettent en avant les Achéens, la société des Achéens. Par exemple, cette observation, plus la confédération approche de la démocratie, plus elle est parfaite. C'est ainsi qu'étaient les sociétés des Achéens, des Étoliens. Vous voyez que les Étoliens sont encore là, des Thébains. Attention, les Thébains, ce ne sont pas tout à fait les Béotiens. Ce sont les Thébains de la grande époque des Pélopidas, des Epaminondas, et non pas les Béotiens vitupérés par Polybe. Mais la suite montre bien que pour Montesquieu, la confédération achéenne l'emporte dans la Grèce, qu'on appellera plus tard hellénistique, sur celle des Étoliens, sur celle des Béotiens. Deux reprises, en effet, il la cite, et elle seule, en exemple, lorsque l'Union est démocratique, chaque État particulier peut la rompre parce qu'il a toujours gardé son indépendance. C'est ainsi qu'était la société des Achéens, oui, cité, mise en exemple. L'affirmation prête d'ailleurs à discussion, car on peut mettre en doute que dans la Confédération achéenne, les États membres aient pu quitter, quand ils le voulaient, l'État fédéral. Mais ça, c'est une autre question que l'on abordera plus tard. L'autre passage où les Achéens étaient mentionnés dans cette première version de l'esprit des lois, dans ces notes donc, se trouve un peu plus loin. Je remontre le texte. Le problème qui est posé là, celui de la taille donnée à ces républiques fédératives, pour qu'elles soient viables, ou plus exactement, comme l'écrit Montesquieu, pour que l'on y puisse prendre des décisions, des résolutions actives, c'est-à-dire des décisions qui aient force de loi dans l'ensemble de l'État et qui aboutissent à des résultats effectifs. Cela ne peut avoir lieu, ajoute le philosophe, que dans le cas où les membres unis sont en petit nombre, aussi dans la société des Achéens. À nouveau, donc, citer un exemple, où un très grand nombre de cités fut reçu, l'avis du plus grand nombre d'elles fut toujours suivi, sans quoi il aurait été impossible de prendre des résolutions. Donc, dans un grand État fédéral, les décisions doivent être prises à la majorité et non pas à l'unanimité, sinon c'est le blocage, comme c'était le cas dans les provinces unies de Hollande de son temps, où il y avait ce système de l'unanimité. Blocage que l'on constate aujourd'hui encore, parfois, dans l'Union européenne lorsqu'il s'agit d'adopter à l'unanimité une nouvelle constitution. Lecteur de Polybe, donc, Montesquieu n'avait pas une mauvaise opinion de la Confédération achéenne. S'il n'a pas cru, en fin de compte, devoir retenir cet exemple dans la version finale de son traité, au point de la passer totalement sous silence. Pas un mot des Achéens dans l'esprit des lois, malgré tout ce travail, si vous voulez, en amont. C'est d'une part, croirais-je, que l'histoire de cet État était trop complexe, voire chaotique, certainement affligeante aussi, puisqu'elle devait aboutir, on l'a dit, à une catastrophe nationale avec la destruction de Corinthe en 146, la fameuse année de la destruction de Carthage aussi. D'autre part, et peut-être surtout, c'est que les institutions n'en étaient pas parfaitement claires. Chose assurément étrange, quand on songe à la qualité du témoignage contemporain, direct, enthousiaste, à quelques réserves près, de l'Achéen Polybe. De fait, cet historien, l'un des plus justement réputés de l'Antiquité, n'a donné nulle part dans ce qui reste de son œuvre, il est vrai qu'elle ne nous est pas parvenue au complet, tant s'en faut, un tableau des institutions, et en tout cas de quoi satisfaire la curiosité des modernes sur le fonctionnement d'un État qu'il connaissait sans doute trop bien de l'intérieur pour le décrire systématiquement, avec cette conséquence qu'on s'interroge aujourd'hui encore sur des questions aussi fondamentales que la nature et la composition des assemblées achéennes, le système des magistratures, la subdivision en circonscriptions militaires ou fiscales. Pour des raisons que l'on pourrait donc qualifier de pédagogiques, Montesquieu a préféré s'en tenir au tableau des structures essentielles du koinon lycien, tel que l'offrait Strabon, hein, en une page, on peut la revoir encore, en une page admirablement synthétique, apparemment limpide, plus équivoque cependant, et sur plus d'un point, que ne l'a cru l'auteur de l'Esprit des lois, travaillant sur une traduction sans doute un peu imprécise ou voire déjà fautive, d'où en tout cas, chez lui, une erreur d'interprétation qui a été dénoncée dès le XIXe siècle, qui dénature quelque peu la belle République fédérative, citée en exemple, puisqu'elle donne à croire, ce sont les mots soulignés, que les magistrats des villes lycéennes étaient désignés par l'État central, ce qui est le contraire d'un État fédéral, alors qu'en réalité, Strabon dit fort clairement que chaque cité choisissait ses magistrats qui la représentaient dans les organes fédéraux. De toute façon, le choix fait de la Lycie ne laissait pas d'être paradoxal, puisque ce koinon lycion, on l'a vu, né seulement après 167, sous l'égide romaine, devait sans doute l'essentiel de ses institutions au modèle achéen, hein, qui aurait donc par là dû être cité au premier rang. D'autre part, si cette confédération lycienne apparut à ce point exemplaire, n'est-ce pas en partie sur la base d'un malentendu dont certes Montesquieu n'est pas entièrement responsable. En effet, il a cru pouvoir inférer de l'ignorance où l'on était de l'histoire des Lyciens, de l'histoire de la Confédération lycienne, il a cru pouvoir en inférer que ce peuple sans histoire était, selon l'adage bien connu, un peuple heureux, à l'abri des guerres et des révolutions. Strabon tout le premier, du reste, soulignait combien les Lyciens, à la fin de son passage, s'étaient toujours montrés raisonnables, sophrones, et que, régis par une excellente constitution, œil nomou menoi, ils avaient pu demeurer libres aux côtés des Romains, eleuteroi para romaios. Or, la réalité, on s'en doute, s'est révélée plus complexe au fur et à mesure que s'affinaient nos connaissances. En 1863 déjà, du reste, l'historien anglais Edward Freeman, voilà, page de titre dans ce classique, le History of Federal Government from the Achaean League to the Disruption, la dislocation of the United States. N'oublions pas que nous sommes en 1863, la guerre de sécession. Non ? Faisait d'express réserves sur le caractère exemplaire du modèle lycien, auquel il préférait de beaucoup, dans le Silage de Polybe, le modèle achéen. Il n'y avait pour lui que quatre véritables confédérations, ou comme il aimait à dire, Commonwealth, digne de ce nom. On appréciera la touche britannique du terme. Si la palme devait revenir sans conteste à la glorieuse Ligue achéenne, les États-Unis d'Amérique, au final, et en dépit de la guerre de sécession, justement, qui les déchirait alors, étaient déclarés ex aequo. Venait ensuite, à quelque distance, un État séculaire, modeste certes, mais toujours debout, la Confédération des cantons suisses, qui devançait assez confortablement la lanterne rouge de ce peloton de tête, les Provinces-Unies de Hollande, qui d'ailleurs n'avaient pas survécu à la tourmente révolutionnaire. Il n'était donc plus question de la Lycie, à laquelle Freeman, tout en la saluant de loin, reprochait de n'avoir pas d'histoire. Pas d'histoire. Lycien, have nothing which can be called history. Ou plutôt donc de n'avoir qu'une histoire bien tardive et de n'avoir fait qu'une trop brève apparition dans le ciel étoilé des confédérations antiques et modernes. On verra de fait que l'État lycien n'a pas été à l'abri des soubresauts de l'histoire générale, ni des conflits locaux ou internes. Et s'il a été longtemps, si cet État a été longtemps l'allié du peuple romain, il a fini lui aussi, donc tout comme le koinon achaïon, par sombrer dans l'anarchie et la révolte, au point que la Lycie, sous l'empereur Claude, en 43 de notre ère, fut assez brutalement réduite en province romaine, perdant ainsi pratiquement toute autonomie. Chose que Montesquieu aurait pu savoir s'il lui avait pris peut-être la fantaisie de lire Suétone ou Dion Cassius. Mais chose qu'il n'avait peut-être pas trop envie de dire. Lui qui, on l'a vu, a soigneusement gommé les informations de Strabon sur le manque de liberté des Lyciens en matière de politique étrangère, ne voulant pas ternir l'idyllique image de la réussite lycienne. Or, des inscriptions en grand nombre, grecques aussi bien que latines, sont venues confirmer, on le verra, cette rupture, tout en prouvant du même coup, il faut bien le dire, que le koinon lycione ne cessa pas pour autant d'exister et même, à certains égards, de prospérer dans l'Empire romain au 1er et surtout au 2e siècle de notre ère. Mais le fait est là. Grâce au géographe Artémidore, fort honnêtement copié par Strabon et puissamment relayé, il faut le dire, par Montesquieu, la Confédération des villes de Lycie, pâle reflet, sans doute, de ce qu'avait été le grand koinon achéen, est entrée pour toujours dans l'histoire du fédéralisme, au point qu'elle a pu servir à son tour de modèle. Disons plus exactement que cet exemple fut connu et discuté des hommes politiques américains qui, à partir de 1776, un quart de siècle après la publication de l'Esprit des lois, surtout en 1787, contribuèrent à fixer la Constitution fédérale des États-Unis. Les débats de principe auxquels donna lieu cette difficile gestation sont en effet connus. Ce sont en particulier les Notes of Debates de James Madison, publiés en 1964. Mais les historiens, bien sûr, n'ont pas attendu cette date pour s'intéresser à ces débats à travers l'instrument de combat, de propagande qu'était The Federalist, organe des partisans de l'État fédéral doté de compétences étendues. C'est ainsi que Freeman, donc, l'auteur déjà présenté, de l'ouvrage de 1863, pouvait relever que, lors de la convention de 1787, certains fédéralistes, justement, avaient fait état du modèle lycien à travers Montesquieu, non sans se laisser abuser, d'ailleurs, par l'erreur d'interprétation que l'auteur de l'Esprit des lois, on l'a vu il y a un instant, avait commise sur un point du texte de Strabon. Beaucoup plus récemment, dans un mémoire paru en 2003, un recueil collectif qui s'appelle « The Idea of European Community in History », mais un article en français, un historien suisse de l'Antiquité, notre collègue de Genève, Adalberto Giovannini, est revenu sur ces débats pour montrer quel en était exactement l'enjeu. Les anciennes colonies devenues indépendantes, depuis donc 1776, devaient-elles rester une simple fédération d'États souverains où chaque État, quelle que fût sa taille, disposait d'un suffrage au Conseil commun, comme c'était le cas dans les provinces unies de Hollande, au témoignage même de Montesquieu. De même que dans la Suisse, d'ailleurs, d'anciens régimes avant la Révolution. Ou fallait-il au contraire, ainsi que le prônaient alors les initiateurs de cette convention de 1787, créer un État fédéral avec de véritables organes législatifs, exécutifs, où le poids de chaque État membre serait proportionnel à son importance. Donc, selon le modèle de la Confédération lycienne. On notera au passage que la Confédération achéenne ne fut pas oubliée non plus, notamment par l'illustre George Washington. Mais cet exemple servait en même temps de repoussoir aux yeux de ceux qui voulaient montrer qu'une telle république fédérative était vouée tôt ou tard à l'échec, comme cela ressortait du témoignage de Polybe lui-même. Il fallut en fait de longs et tumultueux débats, on l'imagine, et ils sont impossibles, il n'y aurait pas lieu de les résumer ici, entre fédéralistes, soucieux de maintenir la souveraineté de chacune des anciennes colonies, et nationalistes, partisans d'un État central plus fort, lesquels du reste, et ça ne facilite pas toujours la tâche d'interprétation, jugeaient opportun de se dénommer eux-mêmes fédéralistes, ou les véritables fédéralistes, pour aboutir à un système qui, d'un côté, s'appuyait sur le principe de proportionnalité, ce fut la Chambre des députés, et qui, de l'autre, respectait la souveraineté fondamentale des États membres, sans tenir aucun compte de leur taille, hein, avec le Sénat. Voilà comment est né, au terme d'un processus évidemment passionnant à suivre, le système bicaméral, qui devait être adopté tel quel, pratiquement, par la Suisse en 1848, puis, un siècle plus tard, par la République fédérale d'Allemagne. Cela, Giovannini a su le montrer avec beaucoup de talent, et l'on ne peut que l'en féliciter. Le problème, c'est qu'ayant indéniablement prouvé que ce système si ingénieux, ce bicaméralisme, ces deux chambres de nature différente, avait été inventé outre-Atlantique en 1787 sur la base d'une réflexion qui ne méconnaissait nullement l'apport de l'Antiquité en matière d'institutions fédérales, notre collègue a voulu faire du bicaméralisme une pierre de touche, en quelque sorte, applicable à toutes les formes de fédéralisme depuis l'Antiquité. Selon lui, en effet, aucune confédération ne mérite la qualification d'État fédéral si sa constitution n'est pas conforme à ce schéma dualiste et si elle ne possède pas, en particulier, un organe délibératif où les États, en tant que tels, indépendamment de leur taille, de leur grandeur, de leur population, sont représentés de manière totalement égalitaire. Autrement dit, à ses yeux, aucune des confédérations antiques, même les plus élaborées, donc le Koinon Achaïon de Polybe ou le Lukiakon Systema de Strabon et de Montesquieu ne serait un véritable État fédéral. L'affirmation, quoique assurément trop tranchée, pourrait à la rigueur, être admise, en dépit de son caractère, on peut le dire, délibérément anachronique. Mais ce qui ne saurait être en aucun cas accepté, à mon sens tout au moins, c'est l'ultime conséquence, une espèce de salto mortale. Qu'en voudrait tirer mon compatriote, collègue et d'ailleurs un vieil ami Giovannini, à savoir que les prétendus États fédéraux helléniques ne seraient rien d'autre alors que de simples confédérations d'États, donc des ligues aux liens extrêmement lâches, ou alors, inversement, et le plus souvent à l'époque hellénistique, celle qui nous intéresse ici au premier chef, de simples États unitaires. Tout à fait semblables, malgré la première apparence, la différence de nom, koinon, polis, tout à fait semblables aux grandes poleis, aux cités telles qu'Athènes, Rhodes, Cyrène ou Milet. Voilà la position qu'il s'agira de mettre à l'épreuve tout au long de notre cours intitulé « Et pour cause, le fédéralisme antique en question », en retenant quelques exemples parmi les plus significatifs, examinés à la lumière des enrichissements apportés par l'épigraphie et des conclusions que ces nouvelles données autorisent, ou du moins suggèrent. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.